Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va démarrer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Faut-il que le sport soit dépolitisé? C'est un débat que l'on a souvent sur RMC et particulièrement avec la Coupe du Monde de foot qui débute ce dimanche au Qatar. Et bien hier, notre président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité faire part de son avis. On l'écoute.
Je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport. Que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. Il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi, par le sport, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler. Et je pense que ça, il faut le préserver.
Faut-il dépolitiser le sport, Fred Hermel? Moi, j'avoue que quand j'ai entendu ça, les bras m'en sont tombés. Hein.
C'est hallucinant qu'un homme aussi intelligent, un responsable politique aussi puissant, dise une... C'est quoi le mot que tu avais utilisé tout à l'heure?
Coxigrue.
Une coxigrue, comme ça. C'est-à-dire, le sport est éminemment politique, mais de tout temps. Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, Jesse Owen, voilà, c'est. Et puis 68 avec les poings levés, etc. Toute l'histoire du sport est politique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, hein, il y a un basketteur français qui a été exclu de l'équipe de France.
Thomas Hortel.
Hortel, parce qu'il a signé dans un club russe. À ce que je sache, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Donc, c'était une décision éminemment politique. Et parce que la Fédération française a écouté les ordres de l'État. Donc, le sport est éminemment politique et c'est bien que ce soit politique. Ça fait partie. Ouais. La pratique sportive n'est pas politique, mais les événements sportifs en eux-mêmes sont des événements politiques.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais en fait, dans sa déclaration, il y a deux parties. Il y a la première partie où il dit le sport doit être dépolitisé et la deuxième partie où il dit très justement, on aurait dû, en fait, au moment de l'attribution, s'interroger. Donc, en fait, toute son explication est valide, mais la synthèse de son explication et son amorce d'explication n'est pas évidemment acceptable parce que, comme tu le dis, le sport est politique.
Non, mais dans ces cas-là, il ne faut pas recevoir les vainqueurs de la Coupe du Monde à l'Élysée.
Non, mais voilà.
Il ne faut pas se déplacer.
Non, mais on est d'accord. On est d'accord.
Je vais me déplacer s'ils vont en demi-finale. Mais déjà, ça ne veut rien dire.
Souvenons-nous,
souvenons-nous, en 2018, pardon, Thierry, en Russie, Emmanuel Macron. Qui fait le déplacement, qui est dans les vestiaires, qui est filmé, les joueurs, qui chantent la Marseillaise et qui répètent à cette époque-là, c'était surprenant quand même de voir tous les joueurs de l'équipe de France, quand même peut-être des recommandations faites par l'Élysée, on leur demande liberté, égalité, fraternité, qui chantaient les valeurs patriotiques, les valeurs républicaines. C'était éminemment
On est tous
d'accord, mais sans faire l'exégèse de ce qu'il a dit, il a simplement voulu dire politiser maintenant la compétition erreur.
Mais c'est mal dit dans ce cas-là. Et donc il y a un problème aussi.
C'est mal dit, je suis d'accord. Mais en fait, ce qu'il dit après est tout à fait juste. C'est au moment de l'attribution qu'il fallait s'en soucier. Aujourd'hui, évidemment que c'est politique. Enfin, tout. Tout est politique aujourd'hui.
Ça fait un peu déballonnage quand même, que de ne pas, au moment où, dans le débat public, revient en force ce sujet, droits de l'homme, etc., etc., de ne pas le traiter frontalement. Et quand il dit politique, c'est un drôle de mot d'ailleurs, parce que le sport, il est diplomatique, géopolitique, économique, de dire qu'il n'est pas politique...
Et bon, le fait de dire qu'il n'ira qu'au moment de la demi-finale est aussi une position politique, d'une certaine manière.
Mais excusez-moi, moi je trouve ça grave. En fait, quand vous êtes président de la République, soit vous allez voir l'équipe de France parce que c'est l'équipe de France et donc qu'elle passe ou pas le premier tour, c'est l'équipe de France, c'est l'équipe de ton pays, de dire j'irai que s'il passe des demi-finales. Enfin, excusez-moi, il n'est pas président de la Fédé, Emmanuel Macron. Mais de quoi je me mêle en vrai? Non, mais c'est pas au président de la République de fixer des objectifs.
Mais donc
à l'équipe
c'est un
de
acte
France.
Politique.
Mais je suis d'accord, c'est pour ça que c'est idiot ces propos. Mais moi je comprends pas en fait. Un homme politique, il va voir l'équipe de France parce que c'est l'équipe de France. Et en fait, le fait même d'aller voir l'équipe de France juste quand ça gagne. Moi, je trouve ça. Enfin, ça ne va pas, en fait. Et ça prouve bien que c'est politique. C'est-à-dire que les hommes politiques, dès que l'équipe de France elle perd, je peux vous dire qu'ils s'en éloignent. Alors comme de la peste. Et alors, dès que ça gagne, et vas-y que je mets ma photo, que je me gourre sur le prénom d'un tel et un tel parce que j'ai pas eu le temps de bien bosser. Parce que mine de rien, l'équipe de France, il n'y a pas que lui. Hein. Mais Bertrand Delanoë qui dit à un joueur du Paris Saint-Germain, est-ce que vous parlez français? Bon, le mec est français. Hein, donc, ça, il y en a eu, mais des tonnes et des tonnes. Et souvent, par exemple, les politiques avec le sport, ils sont ridicules. ridicule. Ouais, parce qu'en plus, quand vous faites une erreur sur le sport, ça se voit. C'est-à-dire que vous pouvez vous tromper d'1% sur le PIB, je veux dire, de n'importe quel pays. En vrai, personne ne s'en rendra compte. Vous trompez sur le prénom d'un joueur, c'est beaucoup plus problématique.
Mais en plus,
il faudrait qu'il fasse plus attention, vous voyez.
Estelle, en plus, Emmanuel Macron est un véritable supporter de foot. C'est un supporter de l'Olympique Marseille. Il s'y connaît vraiment, en fait.
C'est une bêtise.
C'est d'autant plus lunaire que lui, en plus,
c'est pas lunaire. Ce qu'il veut pas dire, c'est qu'on joue au Qatar. Il y a un problème avec le Qatar de droit humain. Donc, maintenant qu'on y va, on arrête de parler de politique. On parle plus de politique, on ne parle plus du Qatar, on ne parle que du sport.
Ça se résume très simplement. Mais ça peut pas dire.
Non, mais ça se résume très simplement. Dire que ça n'est pas politique, c'est une phrase éminemment politique.
Mais bien sûr, des amorces à faire.
Bon. Les GG, ce matin. Un conducteur de bus est-il responsable de la sécurité de ses passagers? En 2019, à Nice, une jeune fille de 14 ans a été agressée sexuellement dans un bus. Une vingtaine de personnes étaient présentes et avaient demandé au chauffeur de s'arrêter et d'appeler les secours. Ce dernier avait refusé. La famille a porté plainte contre la compagnie de bus pour non-assistance, ce que comprend le chef d'entreprise Mehdi Ghezard.
Une gamine de 14 ans qui rentre de l'école, qui est dans un bus. D'accord. Ses parents payent cet abonnement dans un bus. Donc il y a une prestation de service.
Oui.
D'accord. La prestation de service, c'est quoi? C'est la sécurité, qu'elle le dépose de A, d'un point A à un point B, et qu'elle soit en sécurité. Mais d'accord, on paye ça. La société qui s'appelle, je sais pas.
Ligne Azur.
C'est la métropole. Est responsable de la sécurité.
Bien sûr.
De ses usagers. C'est clair, net et précis. Donc, on va finir le raisonnement. On n'est pas en train de dire comme quoi le chauffeur doit être Rambo. J'ai pas dit ça. Maintenant, il y a une chose. C'est très facile. Tu arrêtes le bus. Tu appelles la police. Qui n'a pas de portable en 2021, en 2020 ou en 2022? Tu arrêtes le bus. Tu cries un type qui agresse une gamine de 14 ans. Ça doit pas être un cow-boy, hein. Le violeur, s'il s'attaque à une gamine de 14 ans, c'est pas un voyou, hein. Je le dis, hein, c'est une voyelle, hein. Non, mais soyons sérieux.
Oui, c'est un pervers.
C'est pas un voyou.
Donc,
si tu lui cries dessus, il dédale.
Alors, est-ce que le conducteur de bus est responsable, sachant qu'il y avait quand même 20 personnes dans ce bus, alors que cette jeune fille se faisait agresser, et que les 20, ils ont demandé au chauffeur de bus d'arrêter le bus, mais ils pouvaient aussi essayer d'arrêter la personne. 20 contre 1, normalement, ça gagne.
Ouais. Il y a un mot de droit, il y a un mot de relation humaine. Le mot de droit, c'est payer les transports en commun et ayez toujours sur vous votre ticket ou la preuve que vous avez payé. Pourquoi je dis ça avec un petit sourire? C'est parce que c'est la preuve de votre assurance. Vous êtes assuré parce que vous avez payé votre ticket de transport. Donc, en l'occurrence, juridiquement, l'entreprise est responsable de ce qui se passe sur votre
transport. Et doit t'assurer, donc.
Et la deuxième chose, c'est évidemment que ça n'est pas le seul sujet de savoir s'il est conducteur de bus, en CDD ou je ne sais trop quoi, etc. C'est un sujet purement humain.
Exactement.
Qui est que, lui et les 19 autres ou les 20 autres, quand il y a une agression, c'est de la responsabilité des uns et des autres d'empêcher ce phénomène,
Non-assistance à personne en danger. Enfin, je veux dire, c'est un truc que tout le monde sait. Enfin, c'est lunaire, c'est pas question que qu'il soit chauffeur de bus, etc. Et je dirais que toutes les personnes autour qui n'ont rien fait, on peut appeler à la police aussi de son téléphone, etc. Donc c'est une non-assistance en danger collective. La personne en danger collective.
Surtout qu'on ne demandait pas au chauffeur de bus de prendre une matraque et d'aller se battre avec le type au fond du bus. On demandait juste d'arrêter et d'appeler la police.
Pourquoi il voulait pas arrêter alors?
Peut-être qu'il a eu peur aussi, j'en sais rien.
Peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il a dit « il faut que je tienne mon service ».
Oui, parce qu'il y a des cadences, etc.
Il y a des cadences, etc. Mais il y a un moment, comme tu le dis en droit, c'est non-assistance à personne en danger. Ça nous concerne tous, chauffeur de bus ou pas.
Apolline Matin, ce matin, faut-il aider les auto-entrepreneurs? Un baromètre du magazine L'Express révèle ce matin que les plus de 2 millions d'auto-entrepreneurs en France se retrouvent en difficulté financière. Plus de la moitié subissent la crise de l'énergie et 9 sur 10 déclarent ne percevoir aucune aide de l'État. Témoignage ce matin pour RMC de Noura, elle est organisatrice d'événements, et de Sylvie qui est coiffeuse.
Je n'ai pas pu signer ce contrat-là car lorsque je lui ai annoncé la hausse de mes tarifs de 3 à 4% dû à cette inflation, mon client habituel a préféré comparer mes tarifs avec d'autres. Je suis dans un embarras total. Si j'arrive à décrocher certains contrats, peut-être que j'y arriverai à sortir ma tête de la noyade.
L'électricité, oui, ça a augmenté. J'ai l'impression de 20%, quelque chose comme ça. C'est tout qui me tombe dessus, donc l'URSSAF personnel, l'URSSAF en tant qu'employeur, et c'est très dur. Et on vous donne aucun délai.
Est-ce qu'il faut réformer le statut d'auto-entrepreneur, Julien Damon? On a l'impression qu'il n'y a que des désavantages à ce statut.
Mais j'ai le sentiment qu'on ne parle pas que des auto-entrepreneurs.
Non, parce qu'elle est coiffeuse, donc oui.
On parle de tous les indépendants, qui, de fait, ne sont pas salariés, c'est ce qui les distingue, et qui ont un système de protection sociale qui, il est vrai, protège bien moins que le salariat. Le salariat protège par le chômage, protège en invalidité. On a eu un sujet d'invalidité quand on parlait de pauvreté tout à l'heure. Et c'est vrai que, et notamment une partie des
auto-entrepreneurs... Au départ, c'était un régime de complément, hein, auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que vous aviez un boulot et vous étiez en plus auto-entrepreneur, vous faisiez les bijoux.
Il faut bien distinguer tous les indépendants. À l'intérieur des indépendants, vous avez des avocats qui gagnent des fortunes et vous avez aussi les auto-entrepreneurs qui sont indépendants, qui pour certains complètent leurs revenus en facturant des prestations annexes, parfois même sur leur temps de travail, salariés, bien. Pour d'autres, vivent dans des conditions très très difficiles et ne peuvent pas prétendre à des aides pour lesquelles ils n'ont pas cotisé et des aides qui ne sont pas faites pour les aider.
Oui, mais je pense qu'on met le doigt là sur un point. Au moment de la création de ce statut d'auto-entrepreneur, beaucoup de gens y ont vu une façon de pouvoir travailler sans payer moins de charges.
En payant
moins de charges, voilà, exactement. C'est vrai que le statut d'indépendant, alors je te rejoins, on n'est pas assez protégé en matière d'invalidité. Si on arrête son activité, on touche pas le chômage, la retraite, c'est pas bien, etc. Donc ça, c'est à améliorer. Hein. Mais je préférerais qu'on améliore le statut des indépendants plutôt que ce statut des auto-entrepreneurs qui est, à mon sens, un mirage où beaucoup de gens ont estimé qu'ils pouvaient... Parce que, excuse-moi, mais si tu es coiffeuse ou c'était quoi l'autre métier ?
L'autre métier, c'était organisatrice
organisateur d'événements sans avoir une société en tant qu'indépendant,
c'est pas possible.
Être entrepreneur, c'est pas possible parce que ça veut dire que ton chiffre d'affaires.
C'est
une toute petite activité, tu ne peux pas t'en sortir.
Bah oui.
Donc, de toute façon, comme l'a dit Estelle très justement, ça devrait être une activité de complément, mais en aucun cas un truc pour vivre de son travail, parce qu'on ne cotise pas assez en étant entrepreneur. C'est un mirage.
C'est
un mirage. Oui, mais c'est un mirage. C'est ce que je dis.
Mirage par rapport au salariat, et en effet, c'est dévoyé. Je suis d'accord.
On est d'accord.
Et au départ, c'est vrai que tu avais beaucoup de gens qui faisaient ça en complément, parce que justement, on le vendait comme ça. On te disait, tu travailles la journée,
tu te fais
2-3 heures de chauffeur Uber.
Maintenant, ils sont sous-salariés.
Et maintenant, ils sont sous-salariés.
Ce sont des sous-salariés.
Ils sont dépendants.
Ils ont la double peine. Mais au départ, ce régime-là, il a vraiment été créé parce que toi, tu faisais un peu de cuisine chez les gens et tu créais. Enfin, je dis la créatrice de bijoux, mais c'est totalement
ça. Il y a une partie des auto-entrepreneurs quand même. Je crois que le plafond désormais de chiffre d'affaires pour auto-entrepreneur, c'est autour. Je crois que c'est 40 000. Mais admettons, tu peux quand même t'en sortir financièrement.
Mais c'est très rare.
Oui, mais sache que tu cotises moins parce que le statut justement est très favorable pour l'auto-entrepreneur. Et donc, en période de crise, tu meurs sur les hausses d'énergie.
Et il y a un effet pervers, c'est de faire croire notamment aux jeunes générations qu'elles sont libres. En fait, d'ailleurs, les jeunes ne veulent plus de CDD. De CDI.
Non, pas tous les jeunes.
Non, attendez, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont moins intéressés par le CDI, alors qu'avant, les gens voulaient des CDI. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette illusion.
C'est les fantasmes de Fred, ça.
Non. Il faut regarder les chiffres. Cette illusion de liberté. Cette illusion de liberté que donne le fait. Ouais, je suis patron. Non, t'es pas patron parce que c'est pas une entreprise, l'auto-entrepreneuriat. Oui, c'est ça le fait. Les gens pensent qu'ils sont directeurs d'une entreprise.
Si il y a des auto-entrepreneurs heureux, moi ça me va très bien. Oui. Si il y a des auto-entrepreneurs malheureux, parfois il ne faut pas qu'ils viennent pleurer.
Le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui, et puis arrivés à l'âge de la retraite, ils vont se rendre compte qu'à l'âge de la retraite, rien du tout.
À l'arrivée au moment où ils vont être malades, ils vont comprendre.
En période de crise, c'est ce qu'on vit actuellement. D'où la difficulté des 2 millions.
Ils sont malheureux. Apolline Matin, ce matin, avez-vous commencé vos cadeaux de Noël ? Noël, c'est dans 5 semaines. On va célébrer Noël et on va faire de nombreux cadeaux à nos proches, mais certains vont aussi gâter leurs animaux en leur faisant des cadeaux parfois insolites. C'est ce que nous révèle ce matin Charles Magnin.
3 Français sur 4 comptent offrir un cadeau à leur petit compagnon. 17% avouent qu'ils pensent d'abord au cadeau pour leur animal avant de penser au cadeau pour le reste de la famille. Voilà, c'est le cadeau prioritaire. Alors, côté budget, une grande majorité d'entre eux comptent dépenser entre 10 et 20 euros, mais il y en a quand même 6% qui vont monter au-dessus de 30 euros pour le cadeau.
Un petit arbre à chat,
Ah bah alors justement, qu'on leur offre en tête des cadeaux ? Ce sont en effet les jouets, vous avez bien vu Apolline, le joujou, mais aussi les friandises. 20% des chiens et des chats auront droit à des cadeaux un peu plus high-tech, hein, une toute nouvelle gamelle, une laisse flambant neuve. Mais mes préférés, ce sont ces 5% de propriétaires qui envisagent de lui offrir une séance de shooting photo pour Noël. Voilà.
Alors ça, Thierry, je ne comprends pas qu'on puisse offrir je sais que vous avez un animal, mais qu'on puisse offrir un cadeau de Noël à un animal, tout comme un cadeau de Noël à un enfant de moins de 2 ans.
Complètement d'accord avec vous, je trouve ça totalement ridicule. Alors en fait, il faut analyser un petit peu ce que c'est que le cheminement quand on offre un cadeau à son animal de compagnie. Je pense qu'on s'offre un cadeau à soi-même. Ah oui. C'est-à-dire que quand on offre un jouet,
c'est pour Noël alors.
Bah parce que ça fait une, c'est une occasion. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on offre un shooting photo comme Charles en a parlé,
c'est pour
avoir une photo de son chat et on est content, on la met sur son bureau où on veut. Quand on offre un jouet, c'est pour jouer avec l'animal. Donc en fait, on fait un cadeau à soi-même. Parce que sinon, offrir un cadeau en pensant que l'animal va être content de recevoir le cadeau, c'est
dire. On est bien d'accord que l'animal ne sait pas que c'est Noël. Enfin, je veux dire.
Voilà, je veux bien qu'on entre dans une ère où on dit que les animaux ressentent des choses, donc ils ressentent la souffrance. J'ai pas de problème. Qu'on se batte pour le bien-être animal, j'ai pas de problème. Qu'on se batte pour qu'ils ressentent une joie au moment de Noël, ça, j'y crois pas.
C'est tout ce que je trouve totalement ridicule. Compliqué, c'est d'organiser une dinde de Noël dans un poulailler. Voilà.
Alors, franchement, je vais vous surprendre. Sincèrement, chacun fait ce qu'il veut.
C'est intéressant, ça, comme analyse.
J'écoute Thierry.
Moi, je suis d'accord.
Là, on a mesuré, etc. Mais si le bonheur des gens, c'est de faire un cadeau au chien. Et le chien, s'il a un gros nonos, il est content.
Mais ils se font plaisir à eux-mêmes.
Mais oui, très bien. Mais si à Noël, il a un nonos un peu plus gros que d'habitude, il sera très content.
Non, mais on vient de parler, on vient de passer une heure sur la pauvreté en France, quand même. Et là, on en est à offrir un cadeau à soi-même.
La culpabilisation, là, c'est.
C'est pas la culpabilisation, mais c'est peut-être.
Mais il y a beaucoup de. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de gens pauvres et isolés qui n'ont. Notamment de femmes veuves qui n'ont qu'un un animal de compagnie. Truc. Il n'a peut-être plus de cadeaux à faire. Parce que ces gens ne viennent pas le voir. Alors, il fait un cadeau à son animal de compagnie.
Mais je rebondis sur ce que tu dis, mon cher Fred. Oui. Ils ont un animal parce que c'est bien pour eux. Mmh. Et s'ils lui offrent un cadeau au moment de Noël, c'est pour eux qu'ils le font. Et je ne critique pas.
C'est sûr que l'animal ne leur dira jamais merci.
Mais voilà.
Si, tu as la culpabilité, c'est un gros de noces.
Ouais, mais dans le poulailler. Bon.
Ce qu'il faut faire, c'est mettre des crèches. Qu'est-ce que vous avez contre les poulaillers ?
Taisez-vous.